Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que les messagers du cheval vous retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Dès le début du XVIe siècle, l'Europe va se réveiller de la torpeur dans laquelle elle se renfermait depuis plusieurs siècles. Les puissances occidentales vont organiser des voyages d'exploration du monde par voie maritime et dresser les premières cartes relativement fiables qui leur permettront de mettre en place des réseaux commerciaux et nouer des contacts diplomatiques avec des pays et des civilisations qui leur étaient pour la plupart inconnus. En moins de deux siècles, les Européens auront acquis une connaissance précise du monde qui les entoure, ce qui leur permettra de planter leur drapeau sur des terres dont ils feront des colonies, souvent au mépris des autochtones. L'Australie est une de ces terres. Nous avons intitulé cette émission « Les Stockmen d'Australie ». Alors pour commencer, Virginie, pourrais-tu nous brosser à grands traits l'histoire récente de l'Australie, on dira à partir du XVIIIe siècle ?
Alors, elle commence pas très bien. Parce que, après avoir été déclarée anglaise par le navigateur Thomas Cook en 1770, il faut attendre 1788 pour qu'elle soit occupée par les colons blancs et pour devenir une colonie pénitentiaire. Cette île, qui est un continent, car il faut rappeler qu'elle est aussi grande que l'Europe occidentale, est devenue une colonie pénitentiaire à la suite de l'indépendance des États-Unis, puisque les Anglais envoyaient leurs bagnards aux États-Unis et la guerre d'indépendance a mis fin à ce type de transport.
Oui, le 4 juillet 1776, je crois que c'est ce qui est la date de l'Independence Day qui est fêtée tous les ans.
D'accord. Donc il aura fallu chercher un autre lieu de déportation et ils se sont tournés vers cette terre du Pacifique. Le premier convoi accosta sur les rives de la Nouvelle-Galles du Sud en 1787, après 8 mois de navigation.
Alors oui, je crois que la Nouvelle-Galles du Sud, c'est à peu près une centaine de kilomètres à l'ouest de l'actuelle Sydney.
Sydney, la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, c'est un État, puisque l'Australie est une fédération d'États.
C'est une fédération, d'accord.
Donc la population carcérale et celle des colons qui peu à peu s'installèrent dans ce pays devaient être nourries. Et l'on voit se développer alors une nouvelle classe, celle des fermiers, essentiellement d'anciens bagnards ayant purgé leur peine. Ces hommes s'enfoncent dans les terres, jusque dans les années 1870, s'emparant légalement ou non de celles-ci, et développant une industrie de la laine et du bétail extrêmement lucrative. Donc en 1901, l'ancienne colonie donc devient indépendante sous le nom de Commonwealth d'Australie, fédération, comme je disais, de 6 États, la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, la Tasmanie, le Queensland, l'Australie occidentale et l'Australie méridionale, et ainsi qu'un territoire, le territoire du Nord, une capitale État, Canberra.
Puisqu'avant, dans les vieilles cartes, l'Australie s'appelait Terra Australis Incognita, puis Australia. Alors, le peuplement européen s'est-il fait d'un coup ou par étapes ?
Par étapes, puisque d'abord, ça a été vraiment les bagnards et l'armée et les troupes qui les amenaient. C'est pour ça que l'activité agricole s'est faite petit à petit, d'autant plus qu'ils avaient peur de ce continent qui ne ressemblait pas à l'Europe. Et ils ont commencé à s'installer dans ces terres en franchissant ces fameuses montagnes bleues qui formaient une barrière en 1813.
Oui, alors tu sais pourquoi on les appelle les montagnes bleues ?
Oui, à cause de la couleur de la feuille d'eucalyptus.
Voilà, au soleil, elle s'évapore et ça donne un espèce de brouillard bleu qui plane au-dessus des forêts d'eucalyptus, des immenses forêts d'eucalyptus australiennes.
Ah, c'est très beau, c'est très impressionnant.
Tu l'as vu ?
J'ai eu la chance de les voir, oui.
Ah d'accord, et c'est vraiment bleu, c'est pas
une vue d'esprit. Ah oui, oui. Enfin, c'est pas bleu azur. Hein,
mais non, non, d'accord, voilà, c'est quelque chose de. Oui, sorte de brouillard un peu bleuté.
Donc, ces fermiers utilisent des stockmen. Hein. Stockmen, c'est l'origine, c'est stock, ça vient de livestock, le bétail. Donc, ce sont les hommes qui s'occupent du bétail. C'est ainsi qu'on appelle les cowboys australiens.
N'importe quel bétail, ça peut être mouton, ça
c'est
peut être.
C'est mouton et bovin. Et contrairement aux cowboys américains, ils sont très bien considérés. Ils ont un certain statut social parce que le bétail est rare et donc il faut savoir s'en occuper. Et donc c'est des hommes en qui on doit avoir confiance. Quand ils s'installent sur ces terres, elles ne sont pas vides.
Alors justement, voilà, je voulais te poser la question. Donc c'est pas un continent vide en fait.
Ah non, le continent australien est celui dont la population est parmi les plus anciennes au monde, hein, puisque les aborigènes sont considérés comme
40 ou 70 siècles, grosso modo, voilà, d'après les chercheurs, oui. Et donc, ils ne trouvent pas donc un continent vide, donc tu viens de le dire. Alors, juste une toute petite parenthèse pour rappeler que aborigène vient du latin ab origines, donc qui veut dire depuis l'origine. Et donc, ces populations, donc on l'a vu, sont là en Australie entre depuis 40 à 70 000 ans, donc c'est énorme. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la durée de cette osmose entre ces peuples et les territoires qu'ils occupent leur ont permis de survivre à peu près partout sur le territoire. Ce sont alors des pisteurs incomparables, ça on le dit, des chasseurs évidemment, formidables, et capables de... Maintenant, je crois qu'ils sont souvent utilisés aussi par la police pour rechercher des gens, des voyageurs qui se sont égarés ou voir des brigands en fuite. Enfin, ils arrivent à trouver des traces de façon extraordinaire. Alors Virginie, est-ce que les rapports entre les Australiens blancs et les aborigènes ont finalement été assez apaisés ?
Apaiser, ça reste toujours un gros problème, la cohabitation, parce que d'un côté comme d'un autre...
Encore aujourd'hui,
il y a des mouvements au sein des communautés aborigènes qui sont contre la cohabitation avec les Blancs, qui voudraient avoir un espace à eux. Maintenant, l'Australie a pu faire face à son passé, assez récemment, malheureusement, mais en donnant plus d'autonomie, si l'on peut dire, aux conseils tribaux. C'est une question très compliquée, qui reste brûlante. Mais en ce qui concerne le bétail, en tout cas, là, il y a une bonne cohabitation, on pourra dire, parce que les aborigènes aiment travailler avec les animaux et leur connaissance extraordinaire de la nature et des animaux leur a permis de cohabiter avec ces fermiers, de travailler pour ces fermiers et de devenir parmi les stockmen.
Des drovers, tu parles de drovers, qu'est-ce que c'est qu'un drover ?
Alors un drover, c'est comme ça vient du verbe drive en anglais, c'est-à-dire conduire, mener. Donc ce sont des stockmen expérimentés qui conduisent les bétails sur de très longues distances. Et l'exemple le plus célèbre est celui de l'épopée des frères Durack, Patrick et Michael, qui en 1879 ont quitté leur propriété dans le nord de l'Australie, à Cooper's Creek dans le Queensland, avec 7250 têtes de bétail et 200 chevaux pour traverser le continent d'est en ouest jusqu'à la région des Kimberley en Australie occidentale. Ils mirent 3 ans pour y parvenir, voyageant sur 4828 kilomètres.
Ça paraît franchement impossible.
C'est un voyage. On ne sait pas s'il y en a eu d'autres, mais en tout cas, c'est le plus long qui ait jamais été enregistré.
Et est-ce qu'on a une idée un petit peu, disons, en prenant une espèce de moyenne, c'est quoi un convoyage ? On a vu ça sur nos émissions avec les cowboys qui menaient des troupeaux, donc d'assez longues distances. Est-ce qu'on a une idée à peu près ?
La manière dont ils ont...
Non, et puis surtout de la longueur. Enfin, c'est pas le système comme chez nous, par exemple, on sort les vaches au pré et puis on va les récupérer le soir. C'est pas du tout le même principe, j'imagine.
Ah, mais le bétail continuait à avancer ou s'arrêtait le soir au campement et eux, ils suivaient. Il y a un livre qui a été écrit par la descendante de Patrick et Michael qui s'appelle Kings in Grass Castle, qui malheureusement n'a jamais été traduit en français et qui raconte cette histoire.
Et alors, est-ce que ces animaux qui sont quand même un petit peu relâchés dans la nature, n'ont pas tendance à se mettre en petits groupes, donc le troupeau se fracture, et puis d'une certaine façon s'ensauvager. Quand on voit les territoires, c'est quand même extrêmement vaste, donc les animaux peuvent partir.
Ah oui, mais des pertes, il y en a toujours, que ce soit aux États-Unis, en Australie ou dans tous les lieux de convoyage, les pays où il y a des convoyages, il y a toujours des pertes, des animaux qui sont volés par des animaux sauvages, volés par des hommes.
Parce que certains troupeaux de bœufs, par exemple, moi j'ai vu pas mal de sujets à la télé, pas mal de documentaires où on rassemble les animaux une fois par an. Généralement pour les vermifugés, pour les marquer, etc. C'est-à-dire que pendant pratiquement 11 mois, ils sont tout seuls, peut-être un peu surveillés. Et on comprend aussi les avions, les hélicoptères, etc. pour aller les récupérer, parce que sinon, ça serait quasiment pas possible.
Bien sûr. Alors nous allons faire une pause musicale avec un groupe australien aborigène, Yofu Yindi. Premier groupe à faire une espèce d'osmose entre la musique rock et la musique aborigène et à avoir eu du succès. Le titre s'appelle « Mainstream ».
Quand on pense au Stockman, on voit immédiatement l'image d'un homme. Alors, est-ce que les, Stock Women existent ?
Alors, elles existent, mais on ne les appelle pas Stock Women. On les appelle Jillaroos. Et de même, on dit également pour les hommes Jackaroos. Ce sont des mots montage d'anglais et d'aborigènes. Oui, les femmes sont de plus en plus présentes sur les stations, qui sont ces grands ranchs australiens. Pourquoi ? Parce qu'elles ont envie de travailler avec les chevaux. Et en plus de cela, on constate qu'elles entretiennent mieux le matériel à moteur. Terry Ormond, qui est l'un des managers de ces grandes compagnies de bétail, constater par exemple qu'un homme va faire rugir une moto, va la pousser très fort, alors qu'une femme, au contraire, ne va pas tourner sur les roues, user les pneus, et qu'elle conduise plus prudemment. Et il constatait, lui, qu'aujourd'hui, 60% des demandes qui sont faites par les gens qui veulent travailler sur la propriété qu'ils gèrent sont des femmes.
Alors, juste une toute petite seconde, c'est que ces femmes sont-elles toutes issues du milieu d'élevage agricole ou est-ce que citadines qui ont envie
La motivation première, quand on voit ce qu'il en est, ce qui nous est expliqué, c'est des femmes qui veulent travailler avec les chevaux, qui sont intéressées par l'idée de travailler avec les chevaux. parce que c'est un milieu où les hommes sont moins présents parce qu'ils se sont tournés vers l'industrie minière. L'Australie est très riche, son sous-sol est très riche et les hommes pensent faire fortune dans l'industrie minière. Donc délaissant le travail traditionnel qui consistait à s'occuper d'un
laissant un petit peu la place aux station. Femmes d'une certaine façon parce qu'ils ne sont plus là. Voilà. C'est cela, oui. Alors, pourrais-tu nous décrire justement, puisque ça a l'air d'être quand même un boulot assez costaud, le quotidien d'un stockman, ses conditions de vie et de travail dans le monde d'aujourd'hui, pour ceux qui sont restés, et puis pour les femmes qui y adhèrent?
Alors, c'est le même travail que celui des cowboys américains dont on a parlé. Donc, leurs activités consistent à soigner le bétail, à le rassembler essentiellement, ce qui se fait à cheval. Toujours dans les endroits les plus éloignés, ou les plus difficiles d'accès, on dira, ou en véhicule tout terrain. Et pour les propriétés les plus grandes, avec des hélicoptères ou des petits avions.
Des petits avions, absolument, oui. Et entre parenthèses, c'est ce rassemblement en hélicoptère, moins en avion qui surveille de haut, et que, voilà, mais en hélicoptère, fait pas mal de morts en Australie, parce qu'il faut, l'hélicoptère va très bas, évidemment, ce sont des espèces de petites libellules, une grosse tête ronde et puis une petite queue. Ils attrapent une branche d'arbre, l'hélicoptère se fiche par terre, et généralement, le pilote, soit est salement blessé, soit carrément, il décède. Quoi. Extrêmement dangereux. Enfin, les Australiens disent que c'est vraiment le boulot dangereux.
Oui, mais ils ont d'excellents pilotes parce que dans ces contrées très éloignées de l'Australie qu'on connaît, celle des plages et du surf, l'avion et l'hélicoptère est un moyen de transport obligatoire. Et donc, certains apprennent à piloter comme d'autres apprennent à faire de la moto.
À faire de la moto, voilà. Alors, on va voir un petit peu, toujours le stockman, est-ce qu'il a des vêtements qui lui sont propres ou il met un petit peu ce qu'il trouve accroché au porte-manteau?
Oui, alors il a des vêtements qui sont, comment dire, qui lui permettent de l'identifier, si l'on peut dire, par rapport au cow-boy américain. Donc, il porte un chapeau qui s'appelle Akabura, donc du nom d'une marque, mais qui est aujourd'hui devenu synonyme de ce type de chapeau, comme on parle du Stetson aux États-Unis. C'est un chapeau assez plus bas que celui du cow-boy américain et qui retombe sur le nez.
Oui, avec une coiffe moins...
Et avec, voilà, moins haute.
Moins haute, d'accord.
Des pantalons appelés moleskine. C'est une toile de coton tissée très serrée. Quand on les essaie, c'est pas très agréable. On a l'impression d'être un peu dans un corset, si on peut dire, mais qui ont le fait de cette toile très serrée les protège des buissons d'épineux, en particulier, qu'on en trouve dans le bush.
Alors parle-moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'un dry zabono?
Alors, dry zabone, qui est le nom d'un grand imperméable en toile huilée, si vous regardez, ça s'écrit D-R-I. Z-A-B-O-N-E, et c'est la déformation du mot, de l'expression dry as a bone, c'est-à-dire vous tenir au sec.
Sec comme un os.
Sec comme un os. Donc, c'est une compagnie qui a créé et commercialisé ce vêtement et qui porte son nom, comme on a vu avec la Kabura. Et ce vêtement est conçu pour protéger le stockman de la pluie. Grâce au rabat qui se déplie sur le trousquin et aux attaches au poignet, au col et sur les cuisses, à l'intérieur des rabats, afin de maintenir le vêtement. Alors, les fermes, donc on appelle cela des stations. C'est un terme propre à l'Australie. Ce sont des propriétés qui peuvent atteindre 10 000 km². La plus grande est Anna Creek, en Australie méridionale, avec ses 24 000 km². C'est la plus grande exploitation du monde. Elle est 7 fois plus importante que la plus grosse exploitation américaine et elle est plus grande que l'État d'Israël, pour vous donner une idée de sa superficie. On comprend donc pourquoi ils utilisent des motos tout-terrain et des petits avions pour rentrer le bétail, car comme ils l'expliquent, il faudrait de tels troupeaux de chevaux et de stockmen pour surveiller ce bétail, que ça serait trop onéreux à entretenir.
Ça serait trop onéreux pour en entretenir.
Alors, ils en ont quelques-uns, mais l'essentiel du travail se fait avec des engins mécanisés.
Là, on est vraiment sur une autre dimension.
Totalement.
J'ai beau me frotter les yeux. Tu m'avais parlé aussi du Grand-Duché du Luxembourg. Enfin, oui. Donc, on ne fait pas le tour d'une propriété. Si le propriétaire dit on va faire le tour de la propriété, ça ne se fait pas comme ça ou ça se fait en 15 jours.
Oui, puis alors, ces propriétés n'appartiennent pas à un propriétaire privé, mais à un grand groupe.
Nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que Virginie et moi-même vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Et ce cheval est également présent tous les mercredis à 12h35 et le samedi à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouet 90.2. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site CFM Radio à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles. Et bien sûr, Virginie, un grand bravo
à nos chevaux.
Ciao, ciao.